Vous écoutez On lit pour vous.
Quand handicap et violence conjugale s'entremêlent. Un texte de Caroline Montpetit, paru le 3 avril 2025 dans Le Devoir. C'est par amour que Linda Gauthier a suivi son partenaire de danse sociale à Alma sur les rives du lac Saint-Jean. On faisait de la danse de compétition, se souvient-elle. C'est quand elle a commencé à avoir des symptômes de sclérose en plaques que la violence s'est installée dans son couple. Il ne le prenait pas. Il venait de perdre sa partenaire de danse, raconte-t-elle au Devoir. Le rapport d'humiliation s'installe d'abord en parole. « Il y a juste moi pour s'occuper de toi. T'es plus capable de rien faire », lui disait-il. On suivit les rudoiements. Un bras serré trop fort, une poussée de trop. À l'époque, c'est aussi le conjoint de Linda Gauthier qui encaissait sa petite rente d'incapacité. Ce fut assez pour qu'elle se décide à téléphoner au CLSC et à trouver refuge dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales avant de rentrer à Montréal, sa ville natale. À l'époque, Linda Gauthier pouvait encore se servir de ses jambes. Aujourd'hui incapable de quitter son fauteuil motorisé sans aide, elle n'aurait accès qu'à deux maisons d'hébergement d'urgence au Québec. Il y en a une à Rimouski et l'autre à Chambly, dit-elle. Entre-temps, elle a cofondé le Regroupement d'activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIQ, et la violence envers les personnes handicapées est l'un de ses chevaux de bataille. On l'a fondé pour dénoncer la discrimination vécue par les personnes handicapées. On offre une assistance parce qu'on sait à quel point c'est difficile de revendiquer nos droits. On sait à quel point les personnes handicapées ne sont pas des personnes revendicatrices, raconte-t-elle. Dépendance et violence. A ne dévoile pas son nom parce que ses enfants ont été tenus loin de ses problèmes de violence conjugale. Atteinte de poliomyélite à l'âge de 9 mois, elle boite et vit depuis toujours avec une jambe légèrement plus courte que l'autre. Professeure de cégep, elle avait 2 enfants avec son conjoint lorsque les symptômes du syndrome post-polio sont apparus. Fatigue chronique, douleur, faiblesse musculaire. À la suite de problèmes avec son employeur, elle perd tout revenu durant une période de 5 ans. C'est un handicap, ce n'est pas une maladie. Et il n'y a pas d'aménagement raisonnable dans les conventions collectives pour personnes affectées par un handicap, précise-t-elle. A et ses 2 enfants deviennent alors dépendants financièrement de son conjoint, qui enligne les petits boulots. C'est là que la violence, tout doucement, s'est installée, explique-t-elle depuis son appartement de Verdun, géré par une coopérative qu'elle a cofondée. Au début, c'était des commentaires. Il disait que j'étais folle. Dans un contexte comme ça, on marchait sur des œufs. Une journée, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il m'a bousculé, je suis tombé. Et une fois que j'étais à terre, il a voulu me traîner, je crois que c'était par les bras, pour me sortir de la maison. Elle résiste et appelle la police, qui vient chercher son conjoint et finit, devant son insistance, par le garder jusqu'au lendemain. Mais lorsqu'elle téléphone à des maisons d'hébergement le lendemain matin, elle ne trouve rien. D'une part, parce qu'elle a un fauteuil roulant manuel et que ces maisons ont toutes des escaliers intérieurs ou extérieurs, mais aussi parce qu'elle a un fils de 16 ans et que les maisons n'acceptent pas les enfants de cet âge. Elle ne peut pas non plus considérer la possibilité d'aller à l'extérieur de Montréal. C'est toutes ces contraintes-là qui ont fait que je suis resté avec mon conjoint. Ensuite, on n'a pas fait chambre à part parce qu'on n'avait pas de pièces d'extra dans l'appartement, mais il vivait sa vie et moi la mienne. La question de la coercition. Au moment de ces événements, ces 2 femmes avaient encore suffisamment de force pour retrouver le chemin de leur liberté. Mais la violence envers les personnes handicapées peut prendre des formes coercitives plus précises, rapporte un document du Regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. on y mentionne le fait de désactiver son système de synthèse vocale pour qu'une personne atteinte de déficience visuelle ne puisse plus utiliser son téléphone ou son ordinateur. D'exiger de connaître ses identifiants et codes de connexion en prétextant son besoin d'assistance. De manipuler ou de saboter des aides techniques à la communication dans les cas de déficience intellectuelle, de troubles du spectre de l'autisme ou de troubles neurocognitifs. Un conjoint peut aussi refuser de fournir un transport nécessaire ou menacer de pousser la personne dans les escaliers. Il faisait le tour derrière moi. Il pogna ma chaise, puis là, il disait « Si t'arrêtes pas, je te jette en bas de ta chaise », témoigne une femme citée dans un document de prévention de la violence du Carrefour familial des personnes handicapées. Une autre parle du croisement malsain entre conjoints, aidants naturels et co-détenteurs de responsabilités financières. On met ces trois-là ensemble, puis il n'y a pas beaucoup de stratégies qui sont articulées autour de ça. Il y a des stades où je n'étais pas capable de quitter l'appartement s'il ne m'aidait pas à marcher. Malade à ce point-là. Dans un tel contexte, la seule véritable option est parfois le silence. Linda Gauthier se souvient d'avoir reçu un appel d'une femme qui disait craindre d'être battue. Malheureusement, elle ne m'a pas rappelé. Et je ne sais pas ce qui se passe avec elle. C'était « Quand handicap et violence conjugale s'entremêlent », un texte de Caroline Monpetit, paru le 3 avril 2025 dans Le Devoir.
Le travail de rue, selon Jacinthe Thériault. Un texte de Gabriel Ferland, paru le 27 mars 2025 dans L'Action d'Autré. L'Action d'Autré, en collaboration avec Travail de rue Lavaltrie, Truel, T-R-U-E-L, a récemment été contactée par le Regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue, ROCQTR, pour faire la lumière sur le métier de travailleur de rue. Jacinthe Thériault, de l'organisme Truel, a accepté de répondre à quelques questions lors d'une entrevue pour démystifier cet emploi souvent méconnu du public. Jacinthe Thériault a été travailleuse de rue à Joliette pendant 30 ans. Et elle devait prendre sa retraite l'année dernière. Pourtant, depuis le mois de janvier dernier, elle occupe le poste d'accompagnatrice clinique au sein de l'organisme Truel. Mon rôle, c'est de transmettre mes connaissances. J'essaie de donner un certain cadre aux travailleurs de rue et de les sensibiliser à l'importance de travailler ensemble, explique-t-elle. Lors de l'entrevue, Jacinthe précise qu'il ne s'agit pas d'une relation d'autorité entre elle et les travailleurs de rue. Elle est là avant tout pour transmettre sa passion, parfois pour questionner, mais toujours dans un rôle d'égal à égal. Je suis également là pour les encourager et pour les écouter, parce qu'il y a des interventions, parfois, qui peuvent être un peu plus difficiles et où l'on a besoin de ventiler, ajoute Jacinthe. Il peut donc lui arriver d'offrir du soutien dans ce genre de contexte. Pour elle, le travail de rue, c'est d'abord et avant tout une relation de confiance qui se bâtit petit à petit en étant profondément ancrée dans le moment présent. C'est important de respecter la personne telle qu'elle est. Par exemple, je ne reviendrai pas sur une situation qui s'est passée hier si elle ne m'en parle pas, explique Jacinthe, avant d'ajouter que le plus important, c'est de comprendre que c'est nous autres les chanceux, parce que, pendant un instant, ils acceptent de nous faire rentrer dans leur vie, puis c'est là que le travail de rue prend tout son sens. Le message qu'elle souhaite lancer aux jeunes qui s'intéressent à ce métier, c'est de ne pas hésiter à poser des questions aux organismes de leur milieu, ou même de demander la possibilité de faire un stage d'une journée. En effet, au cours des dernières années, Jacinthe constate que de nouveaux travailleurs de rue quittent le métier après peu de temps, car ils avaient des attentes trop élevées. Je vois souvent de jeunes travailleurs qui débutent en croyant qu'ils pourront sauver tout le monde. Ce n'est pas ça notre travail. Nous sommes là pour les écouter, pour leur offrir du soutien lorsqu'ils le demandent et pour faire le pont avec d'autres ressources. Mais on ne peut rien leur imposer. Si elle prend le temps de faire ce message, c'est parce que la notion de lien de confiance est au centre de la pratique du travail de rue. Cette relation peut parfois être très longue à bâtir. Or, elle peut se détruire en un instant. Par exemple, lorsque le travailleur de rue quitte son emploi sans prendre le temps de préparer le terrain avant. Jacinthe Thériault est toutefois consciente que sa vision pourrait ne pas être partagée par tout le monde. Elle conclut en affirmant que, lorsque la réalité du métier est bien comprise, dès le départ, c'est vraiment le plus beau métier au monde. Définir le travail de rue. Selon le regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue, ROCQTR, le travail de rue vise à se rapprocher des personnes qui vivent diverses formes de rupture sociale dans une ou plusieurs sphères de leur vie. Cette pratique se caractérise par le fait qu'elle se déploie directement dans les milieux de vie en prenant le temps d'établir un lien de confiance avec les personnes afin de les accompagner vers un mieux-être. En allant à la rencontre des personnes, là où elles se trouvent, les praticiennes et praticiens du travail de rue développent une fine compréhension des réalités humaines. Par exemple, il peut s'agir d'écouter une personne au bout du rouleau, d'en aider une autre à déménager, à rédiger un CV, ou même de contribuer à élaborer un plan d'action local pour la sécurité alimentaire. Pour en apprendre davantage à propos du travail de rue, il est possible de consulter le site Internet du ROCQTR à l'adresse suivante rocqtr.org. C'était « Le travail de rue selon Jacinthe Thériault », un texte de Gabriel Ferland, paru le 27 mars 2025 dans L'Action d'Autrey.
Les GLAAD Media Awards. Plus crucial que jamais de rester visible. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 28 mars 2025 dans le magazine Fugue. Près d'une dizaine de titres canadiens ont été retenus cette année par le comité de sélection de GLAAD pour les honorer comme de véritables vecteurs de changement. Parmi eux, quatre productions qui ont reçu le soutien du Fonds des médias du Canada. Le film « Wayona Earp, Vengeance », les séries « Sort of » et « Beyond Black Beauty » et l'émission pour enfants « The Bravest Knight », en français « Le Chevalier héroïque ». Depuis 35 ans, l'association Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, GLAAD, travaille pour dénoncer les discriminations et les attaques à l'encontre des personnes LGBTQ+, et honore chaque année les œuvres, les médias et les personnalités LGBTQ+, qui font une différence pour leur représentativité dans la culture. Chaque année, des soirées GLAAD Media Awards sont donc organisées à Los Angeles et New York pour récompenser les médias, les œuvres et les personnalités qui représentent la communauté LGBTQ+, à travers leurs actions et leurs productions. À l'heure où les attaques et les violences contre la communauté LGBTQ+, pullulent de plus en plus aux États-Unis et même au Canada depuis l'élection de Donald Trump, on comprend qu'il s'agit de cérémonies importantes, surtout dans ce contexte où l'on assiste à l'expression de propos haineux et aux amalgames inappropriés d'une droite conservatrice plus intéressée à préserver et à imposer des valeurs rétrogrades qu'à respecter l'égalité de tous et toutes. Avec la violence, la législation néfaste, les faux discours et d'autres attaques contre la communauté LGBTQ+, qui continuent de s'intensifier, il est plus crucial que jamais que notre communauté reste visible et incluse dans les histoires que le monde voit dans le cinéma, la télévision, la musique, le journalisme et d'autres formes de médias, remarque Mathieu Chantelois, premier vice-président du Fonds des médias du Canada. Des nouvelles histoires qui démystifient les mensonges sur la non-binarité ou la fluidité de genre, des romances entre personnes de même sexe ou l'homoparentalité dans les programmes pour enfants et familles qui permettent à toutes les familles d'être représentées, les images médiatiques sélectionnées cette année sont aimées du public et créent un réel changement. Voici donc un portrait représentant quelques-unes des œuvres canadiennes sélectionnées. Sort of, dans la catégorie Outstanding Comedy Series. Sort of est une série au grand cœur qui raconte l'histoire de Sabi Mehboob, millénaire fluide qui chevauche diverses identités. Employé dans un bar-librairie LGBTQ, enfant de parents pakistanais immigrés, nounou de jeunes enfants d'un couple de professionnels du centre-ville. Sabi a l'impression d'être en transition dans tous les aspects de sa vie, du genre à l'humour, en passant par la sexualité, la famille et la carrière. Sort of est une histoire de passage à l'âge adulte qui révèle que les étiquettes dans lesquelles nous nous sommes engouffrés ne sont plus applicables à personne. The Bravest Knight, en français « Le chevalier héroïque », en nomination dans la catégorie « Outstanding Kids and Family Programming or Film, Animated ». Le chevalier héroïque dépeint l'histoire d'un jeune cultivateur de citrouilles prénommé Cédric, aspirant à devenir le meilleur chevalier n'ayant jamais existé. Désormais adulte et marié au prince de ses rêves, Cédric raconte ses aventures à sa fille adoptive, Nia, lui montrant la voie et les embûches qui l'attendent dans sa propre quête vers la chevalerie. Accompagné de son meilleur ami, un troll sans pont prénommé Grogne, Cédric se lance dans une quête pour accomplir sa destinée, qui le conduit dans un monde rempli de sorcières et de géants, et qui s'achève par le plus grand défi qui soit, enseigner à sa fille à suivre la même voie. Dans cette série, la petite héroïne a deux papas, situation qui valorise l'homoparentalité et l'ouverture à la diversité. De plus, toutes les aventures de Cédric décrivent clairement des messages clés sur l'écoute, la collaboration et la persévérance. Les personnages de l'histoire sont issus d'une diversité culturelle et familiale, ce qui suscite la promotion de modèles et de comportements visant l'égalité. Wiona Earp, Vengeance, en nomination dans la catégorie Outstanding Film, Streaming or TV. Faire de la télévision au Canada requiert parfois beaucoup de patience et de persévérance. La production Wiona Earp, basée sur la bande dessinée IDW de Beau Smith, en est un très bon exemple. Au Canada, la première saison de Wiona Earp a été diffusée à CHCH, puis la série est déménagée à Space CTV Sci-Fi Channel pour les trois saisons suivantes, tandis qu'aux États-Unis, c'est Sci-Fi qui a diffusé les quatre saisons. Une période d'instabilité financière chez IDW Media Holdings, dont la filiale IDW Entertainment produit la série avec 724 Films, a entraîné une interruption de 2 ans après la troisième saison. En 2019, Cineflix Studios est devenu le coproducteur et le distributeur international de Wiona Earp. Puis Crave a pris le relais pour assurer une quatrième série pour les fans qui ont eu la joie de voir la série remporter le People's Choice Award en 2018 et 2020 de la meilleure émission de science-fiction série fantastique. La production a également remporté un prix Cogeco Fund Audience Choice Award, lors de la cérémonie des Canadian Screen Awards en 2022, alors que les actrices Melanie Scrofano, Catherine Barrell et Dominique Provost-Chalkley ont chacune remporté à un moment donné un prix pour leur rôle dans la série. Grâce à ces récompenses récoltées au fil du temps, ainsi qu'aux superfans de l'émission, les Earpers, Wyana Earp s'est taillé une réputation de résilience et reste adorée des fans. Pour boucler la série, le film Vengeance reprend quelque temps après le mariage de Waverly et Nicole. Wyona revient dans sa ville natale de Purgatory pour combattre une séductrice psychotique, déterminée à se venger d'elle et de tous ceux qu'elle aime. Beyond Black Beauty, en nomination dans la catégorie Outstanding Kids and Family Programming or Film, Live Action. Inspiré du roman à succès du même nom, Beyond Black Beauty est une série initiatique qui suit Jolie Dumont, une cavalière qui aspire à participer aux Jeux olympiques, mais dont l'aventure est brutalement interrompue lorsque sa mère, Janelle, les emmène de leur vie chic en Belgique vers la maison d'enfance de Janelle à Baltimore. Jolie peine à trouver ses racines, mais en tissant des liens avec un cheval fougueux nommé Black Beauty, qui finalement redonnera un coup d'accélérateur à sa carrière olympique, elle apprend à apprécier et à s'approprier le ranch familial où règnent les cow-boys noirs depuis plus d'un siècle. Dans ce récit multigénérationnel d'adversité, d'humilité et d'amour, Jolie découvre enfin la valeur de la famille et du foyer. C'était les GLAAD Media Awards, plus crucial que jamais de rester visible. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 28 mars 2025 dans le magazine Fugue.
Arrêtons de voyager dès qu'on a quelques jours de congé. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 1er avril 2025 dans Le Devoir. La guerre tarifaire amorcée par les États-Unis pousse nombre de Québécois à revoir leurs plans de vacances. Beaucoup envisagent l'Europe, mais pourquoi ne pas rester au Québec? Doit-on forcément partir à l'étranger pour se sentir en vacances? Face aux défis environnementaux du tourisme de masse, le sociologue français Rodolphe Christin propose de repenser le voyage dans son livre « Peut-on voyager encore ?» Propos recueillis par Annabelle Caillou. Pourquoi avons-nous ce réflexe de partir loin pendant nos vacances? Partir en vacances est devenu un acte conformiste, un réflexe conditionné. On n'imagine même plus passer ses vacances chez soi. C'est à se demander si nos conditions de vie quotidienne sont devenues si insupportables qu'on en vient à vouloir partir pour oublier le quotidien. Cette dimension-là a supplanté la découverte du monde. Fut un temps, on partait pour découvrir d'autres sociétés, croyances ou manières de penser. Aujourd'hui, partir semble être une fuite du réel, jugé trop contraignant et fatigant. Du coup, on cherche refuge dans des espaces touristiques conçus spécialement pour nous délivrer de toute contrainte. Des endroits sécuritaires, confortables, accessibles, où tout est facile. Mais ce n'est pas sans impact. Quels sont les impacts du tourisme? L'industrie du tourisme a de forts impacts environnementaux. La recherche de rentabilité et de profit exige une artificialisation des lieux. On organise les espaces pour les rendre accueillants pour les visiteurs, qu'on veut toujours plus nombreux. Pour faciliter leurs déplacements, on crée toujours plus d'infrastructures, ports, autoroutes, haltes routières. Sans oublier qu'on utilise des moyens de locomotion qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre, comme la voiture ou l'avion. Ce sont 8,8% des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par le tourisme. Ensuite, il y a des impacts sociaux importants. C'est rendu très cher d'habiter dans les lieux où la fréquentation touristique est forte. Certains sont parfois obligés de partir et ça crée des conflits entre résidents et visiteurs, comme à Barcelone. On va à l'encontre de cette idée de voyager pour aller à la rencontre de l'autre. pensez-vous que le tourisme a tué le voyage? Oui, parce que le tourisme est devenu une industrie. Les lieux sont organisés pour vous accueillir et vous amener, tous, à tel ou tel endroit. Ensuite, chaque minute, chaque semaine de vacances doit être rentabilisée, comme le temps professionnel. Du coup, ce voyage facile est davantage un voyage de conformité sociale que de découverte et de mise à l'épreuve de soi. C'était ça, le voyage, avant les années 1960. On partait pour se déconditionner d'une société très consumériste, pour se frotter au monde et se transformer. La mise à l'épreuve de soi n'est plus une motivation du départ. Aujourd'hui, on voyage pour retrouver des lieux qu'on a vus sur Instagram et pour publier cette même photo. En fait, plus c'est facile de se déplacer, plus c'est difficile de voyager, car on se retrouve en réalité dans des endroits spécialisés pour accueillir des touristes qui restent entre eux. Ce que vous voyez, consommez, faites, où vous dormez, tout est produit pour vous. L'expérience du voyage s'en trouve banalisée, et c'est difficile de se sortir de ces réseaux-là, car ils sont partout. Maintenant. Peut-on encore voyager? Il faut arrêter de vouloir partir dès qu'on a quelques jours de congé. Il faut retrouver du plaisir à proximité, redécouvrir nos lieux de vie. Ça ne veut pas dire être casanier non plus, mais il faut voyager moins souvent, plus longtemps et favoriser des moyens de locomotion moins destructeurs pour l'environnement. Le voyage, c'est rechercher la convivialité. Le rapport à la nature et aux autres, sans passer par des agences, en se débrouillant pour rester à l'écart de l'industrie touristique. En s'immergeant plus en profondeur dans la vie locale, on vivra des choses plus intenses. Le voyage doit redevenir une expérience exceptionnelle, quelque chose qu'on ne fait pas chaque week-end. Le voyage devrait marquer nos existences et nos mémoires, mériter qu'on y consacre du temps. De l'énergie. Avec les enjeux climatiques, on entre dans un monde où les mesures d'urgence, comme l'interdiction de sortir du territoire durant la crise de la COVID-19, risquent de se multiplier. Si on n'est pas capable aujourd'hui de briser ce réflexe systématique du départ en vacances, peut-être qu'un jour, on ne pourra plus le faire librement à cause de contraintes extérieures. C'était Arrêtons de voyager dès qu'on a quelques jours de congé. Un texte d'Annabelle Cailloux paru le 1er avril 2025 dans Le Devoir.